Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti ! Bienvenue dans ce mini-épisode consacré à un objet culturel. Si vous n'avez jamais entendu parler de Nanette, on va vous mettre au parfum, car cette semaine, on parle de la comédienne australienne Anna Gadsby et de son nouveau spectacle, Douglas. Salut Anne-Laure.
Coucou Clémentine Gallo.
Ça va ?
Ça va super, et toi ?
Ça va, ça va. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit rappel ? C'était quoi Nanette ? Enfin, c'était qui ? C'était quoi ?
Alors déjà, Nanette, c'est ni Danette ni Nénette. C'est autre chose. C'est un spectacle de stand-up spécial qui a été diffusé par Netflix en 2018. I wouldn't want to be a straight white man, not if you paid me. Although the pay would be substantially better. Il a reçu un Emmy Award. En gros, c'est un peu le stand-up dont on a le plus parlé cette année-là et de loin. Et c'était un petit peu une surprise à ce moment-là. Personne en dehors du circuit de la comédie ne la connaissait, Anna Gadsby, alors même qu'elle tournait depuis des années avec ce spectacle. Et pourquoi ça a surpris tout le monde ? Parce que le format et le ton du spectacle détonnaient déjà de ouf. Parce que sous couvert de spectacles humoristiques qui utilisaient l'autodérision, comme beaucoup de spectacles humoristiques par ailleurs, c'était surtout un spectacle sur le traumatisme. Anna Gadsby racontait sa jeunesse, donc c'est une femme qui est lesbienne, qui a été battue, qui a souffert de butchophobie. Elle n'était pas assez féminine selon les codes de la féminité instaurés par des hommes. And he said, oh no, I get it. You're a lady, f***. I'm allowed to beat the s*** out of you. And he did. He beat the s*** out of me and nobody stopped him.
I was certainly in a dark place in the year or two before I wrote Nanette. And even though my career was great, and I'm like, this doesn't make sense. I have success and my ability to cope with life is getting worse. How about I just say what I really think and see how that flies.
Elle a été agressée sexuellement, elle a été SDF, bref, tout ça pour dire que c'était pas une super belle histoire très drôle. Elle a grandi en plus dans une région hyper réac, équivalent de la Bible Belt, mais en Australie, donc c'est l'île qui s'appelle la Tasmanie, donc au sud de l'Australie. I don't feel comfortable in a small town, I get a bit tense, mainly because I'm in this situation. And in a small town, that's all right, from a distance. People like, oh, good bloke. Et là-bas, l'homosexualité était illégale jusqu'en 1997. C'est dingue.
Ouais, incroyable.
Les débats sur sa légalisation, donc la légalisation de l'homosexualité quand même, ont provoqué pas mal de violences LGBT-phobes à l'époque. Donc,
double peine.
Ouais. En tout cas, ce spectacle, a priori, le thème n'était pas très drôle.
Ouais. C'est vrai qu'elle réussissait à faire ressentir de l'empathie pour son trauma, ce qui est quand même assez difficile et assez rare. Et là, j'ai revu le spectacle, effectivement, je trouve qu'il est assez difficile à regarder, surtout la fin. Mais c'est vrai qu'elle nous attire vers cette fin-là, qui est assez surprenante. Et en fait, il faut rappeler qu'elle trouvait que la forme comique, finalement, ne convenait pas pour aborder ce sujet, même si, effectivement, c'était un bon moyen d'attirer le public dans la salle, d'avoir un public captif justement. Et en fait, elle explique sur scène que les mots et les pratiques de la comédie, c'est-à-dire les blagues, les punchlines, ne suffisent pas, selon elle, à décrire ce qu'elle a vécu et à exprimer véritablement sa colère. Pire, elle explique toujours dans le spectacle, et elle prend vraiment le public à partie, que selon elle, l'autodérision a finalement atteint ses limites et participerait grandement à la violence que subissent les minorités. I have built a career out of self-deprecating humor, and I simply will not do that anymore, not to myself or anybody who identifies with me. Do you understand what self-deprecation means? It's not humility. It's humiliation. Je la cite. Est-ce que vous comprenez ce que signifie l'autodérision quand cela vient de quelqu'un qui est déjà en marge ? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation.
Et d'ailleurs, à la fin de Nanette, sur Netflix, elle expliquait qu'elle était prête à en finir avec sa carrière comique pour arriver à dire les choses au-delà de la comédie, de façon la plus large possible. Elle avait utilisé Netflix d'ailleurs, et c'était une très bonne idée, puisque Netflix, tu peux atteindre absolument tout le monde. Et donc, à la fin du stand-up, une fois que son message est passé au plus grand nombre, elle se dit qu'elle en a peut-être terminé avec la comédie. This is the end, beautiful friend. Et justement, c'était tellement dingue d'entendre ça. La réception du spectacle a été assez dingue dans le monde entier. She comes at you with comedy, so you're all loosened up, and then boom, she hits you with the reality
of it, and you're like. You're crying. I mean, I'm crying just thinking about it. Oui, juste au moment où elle devient très connue.
C'est ça.
En fait.
C'est, et dans toutes les communautés, en plus, ça a été assez ouf. Ça a atteint beaucoup de personnes. La critique a été hyper lyrique. Tout le monde s'est enflammé.
Normal.
Bon, après coup, il y a eu, évidemment, comme on peut s'y attendre, un gros backlash. Les trolls sont sortis de leur tanière. Il y a eu beaucoup de haine déversée. Aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure, le public était captif. Donc, s'est senti parfois un peu piégé, entre guillemets. C'était le reproche qui était donné à Nagatsby. On nous aura menti sur la marchandise, on est venu pour rigoler, on se retrouve complètement pris à partie. Est-ce que c'était un trompe-l'œil? On a été berné, on a été attiré dans une salle pour se faire infliger une bonne leçon par une lesbienne en colère qui raconte un peu la racine de ses tourments. Bref, c'est un peu ce genre de critique qu'elle a reçue. On a dit que c'était un monologue, une confession, voire un TED Talk, une leçon. D'ailleurs, TED Talk, c'est quelque chose qu'elle assume parfaitement. Elle en a fait une blague après coup. Mais en vrai, moi, et je pense la plupart des personnes qui aiment Anna Gatsby, c'est aussi pour ça, parce que elle est fluide dans le genre, elle est fluide dans l'humour. Paradoxalement, je trouve que ça a amené pas mal de choses au monde de la comédie. Et d'ailleurs, pas mal de comédiens ont décidé de repenser leur écriture à l'aune du spectacle d'Anna Gatsby. Comme, j'espère bien prononcer son nom, Kumail Nanjiani, qui a dit que ça l'avait fait beaucoup réfléchir. Et du coup, Anna Gatsby, avant même d'être cette comédienne et cette nanette, qui c'est ? Là est la question.
Alors, t'as rappelé un petit peu ses origines. Elle est née en 1978, donc c'est une jeune quadra. Elle vient d'une famille nombreuse et surtout, elle a étudié l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, ses spectacles sont très érudits et émaillés de références à mourir de rire. D'ailleurs, vous ressortez de Nanette avec toute une culture sur Picasso et le cubisme, et vous ressortez de Douglas avec les dates de la Renaissance italienne. Et,
Welcome to the Renaissance woman. I am she, Hannah Gatsby. Today, I want to talk about the adoration of the Magi, the three kings that visited the baby JC. We three kings of our, you know the ones.
Et voilà, et quelques peintures en tête. C'est quelqu'un qui a été, de son propre aveu, très paumé, notamment parce qu'elle a été traumatisée. Elle a fait plein de petits boulots, elle a notamment été projectionniste dans un cinéma en plein air, elle a vécu dans sa tente, et en fait, toute sa vie, elle a raconté des histoires pour échapper à la réalité de son quotidien, mais elle, en fait, elle n'avait jamais vraiment rêvé d'être humoriste.
If you're here because of Nanette, why? Just how wildly popular trauma was going to be in the context of comedy, I might have budgeted my shit a bit better.
Il dit qu'elle a essayé plein de choses différentes assez impulsivement et qu'un jour, sur un coup de tête, elle s'est inscrite à un concours de comédie en Australie alors qu'elle n'avait jamais vu de stand-up, qu'elle n'avait jamais elle-même été sur scène. Et en fait, grâce à ça, grâce à cette participation à ce concours, elle s'est rendue compte que le public l'aimait bien et surtout, elle s'est sentie connectée au monde pour la première fois. Mmh. D'ailleurs, on va apprendre ensuite dans son nouveau spectacle Douglas qu'elle a été diagnostiquée sur le spectre autistique il y a 4 ans.
I think I'm wired a bit wrong for adrenaline. Something like this or performing in front of a lot of people dead inside.
But so if, even before you go on stage, you
yeah,
don't feel it.
Yeah, I'll give it a yawn. But I've been, you know, if you were to ask me, you know, would I like tea or coffee? I panic. So yeah, I panic even in my own answers. I'll trip over, my, you know, and I'll have a white coffee, oh, black coffee, white milk, you know, just to make sure people know what's going on. And it's a completely useless panic.
Why do you think it's like that?
Well, my mum said it was because I was dropped on my head as a baby, but I don't think that's it. I dare say it's because I have autism. I think that might have something. It's a neurological thing.
I mean, this autism thing is this is something you didn't know, right?
No, not till about four years ago I was formally diagnosed.
Did that come as an explanation of a huge surprise?
I've had a few diagnoses in my time. And this was the first one that just sort of really made a lot of sense. all of a sudden. My life, retroactively, I could look back and sort of go, yeah, I do like routines, don't I?
Alors, il faut savoir que sur la scène queer et LGBT, il y a déjà un petit peu plus de monde qu'il y a quelques années. Et chacun apporte, ouais, et c'est vraiment ouf. Et chacun apporte son petit style. Donc, aux États-Unis, on a Tig Notaro, Léa Delaria, Margaret Cho. En France, on a Océan, Tani, Shirley Soignon.
Ok, je pose la question en fait parce que je n'ai jamais vu mon père pleurer. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Enfin, si, juste une fois. Quand je lui dis que j'étais lesbienne, il a pleuré.
Entre autres. Et Anna Gatsby, elle, son truc, c'est les blagues sur les TERFs. Donc, les féministes, entre guillemets, qui sont transphobes.
Genre Hermione dans Harry Potter.
Voilà. Des blagues sur le patriarcat, sur les hommes blancs hétéros.
A man came up to me after my show. He had an opinion. Lesbians give feedback, men opinion.
Pour citer un exemple issu de Douglas, à un moment, elle fait une blague, j'ai trouvé géniale, j'ai envie de la réutiliser tous les jours. Vous, les Américains, vous êtes les hommes blancs hétéros de la culture. Je trouve ça génial. Mais aussi, elle fait des blagues sur les anti-vaccins et les amoureux du régime paléo. Bref, c'est un peu ce qu'on appelle l'humour minorisé. Et justement, encore une fois, elle dit que ce genre d'humour a ses limites. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. C'est comme ça qu'elle ressent. Pour elle, c'est aussi utiliser l'humour minoritaire, c'est aussi demander la permission d'exister. Elle a par exemple beaucoup parlé, bah, là, toujours à la fin de son premier spectacle, Nanette, elle a dit qu'elle avait arrêté de faire de l'humour self-depreciating, donc autodépréciatif, sur elle et sur son corps. Par exemple, oui, elle est une grosse lesbienne, mais c'est pas le centre de son spectacle. C'est comme ça et elle a décidé d'arrêter de faire ça, ce qu'elle faisait au début de sa carrière. Et justement, Douglas, le nouveau spectacle est vraiment différent de Nanette.
Il est toujours diffusé sur Netflix, hein, qui a flairé le bon filon avec Anna Gatsby. Alors pourquoi ce titre ? C'est à la fois le nom de son chien, car ces animaux sont très importants dans son spectacle, et on apprécie. Et c'est aussi, ça tombe bien, une partie de l'anatomie féminine qui s'appelle en français le cul-de-sac de Douglas, et en anglais Douglas Pouch, qui a été nommé d'après un médecin qui s'appelait James Douglas, qui est une partie... petite partie entre le vagin et le côlon. Et d'ailleurs, elle en rigole en disant le docteur Douglas a quand même réussi à nommer d'après lui un espace vide du corps des femmes. Donc voilà, petit coucou à la médecine pensée par les hommes et pour les hommes. Mais effectivement, le contexte de ce spectacle est très différent du précédent, ne serait-ce que géographiquement, puisqu'en fait il se passe et il est enregistré aux États-Unis et il s'adresse aussi beaucoup à un public américain, enfin d'américains et d'américaines.
When I first started touring here, I was told I should Americanize my language. To which I responded, fuck off.
D'ailleurs, toute la première partie est dédiée aux différences linguistiques entre l'anglais nord-américain et l'anglais australien. Donc je pense que c'est peut-être un peu difficile à suivre pour les francophones et impossible à traduire en français de toute façon. Je ne sais pas comment c'est traduit, moi je l'ai regardé en anglais.
J'avoue que ce serait intéressant de regarder avec les sous-titres, mais ça doit être très compliqué à faire comme boulot. Mais justement, ce qu'on a bien aimé dans Douglas, c'est que c'est un peu un début in medias res. Elle adresse frontalement la question de son succès suite à Nanette et la pression qu'elle a subie hein, face à cette soudaine célébrité. Elle appelle Douglas un peu son deuxième album. Elle parle aussi des critiques qu'elle a reçues, faire la leçon, ne pas être drôle. Elle y répond, je trouve, de façon hyper adroite. Elle utilise encore son chien comme métaphore. Donc, sur scène, il faut savoir qu'il y a un gros chien. Et elle l'utilise vraiment comme métaphore.
Enfin, une sculpture.
Oui, une sculpture, oui. C'est pas l'animal, en vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit, justement, au public, si je vous jette un nonos, allez pas le saisir. Donc, je trouve ça assez cool. Le public peut se sentir encore pris pour un être fragile, mais qu'il en soit ainsi, j'ai envie de dire. Moi, ce qui est cool, c'est que aussi, au début, elle annonce tout le programme du show. Un peu comme une magicienne avec un chapeau de forme. Elle explique qu'il va y avoir des rêves Harry Potter, des petits os jetés aux haters. Elle dit qu'elle dira des choses très tristes sans couvert de drôlerie. Elle annonce un peu la construction de son spectacle, ce qui, nous, public, nous permet d'être un peu en maîtrise. On adore un peu cette constriction comme un trigger warning inversé. Cette fois-ci, c'est pas les victimes qui doivent se sentir prêtes à l'attaque, c'est l'inverse. C'est plutôt les agresseurs ou les membres de l'hétéro-patriarcat blanc, comme elle le dit. D'ailleurs, elle le dit, si vous n'êtes pas une minorité, n'allez pas pleurer, ce qui est quand même assez cool.
Oui, pour une fois. Effectivement, il y a quand même une continuité avec le spectacle précédent, puisque le féminisme est toujours bien bien présent. Donc elle raconte comment le public, et en particulier les hommes, ont réagi à son premier spectacle, à son spectacle précédent. Elle parle du hashtag Not All Men, et ça fait du bien. Elle parle des hormones, puisqu'on accuse toujours les femmes de dépendre de leurs hormones, alors que les hommes aussi ont des hormones et qu'ils sont parfois aussi régis par clairement. Elles. Elle aborde la question des violences médicales, puisqu'elle raconte que la pilule lui donne des idées suicidaires, mais que ça n'a pas l'air de déranger son médecin. Elle parle aussi, et c'est assez passionnant à observer sur scène, notamment dans son langage corporel, elle parle du principe de l'autodiagnostic pour les personnes neuroatypiques, donc, puisqu'en fait, elle a vraiment galéré pendant très longtemps avant d'être officiellement diagnostiquée sur le spectre de l'autisme. Et c'est quand même une information de taille, puisque elle dit qu'elle est, en anglais, on dit high functioning, donc quelqu'un qui fonctionne à très haut niveau.
Being a stand-up comedian, having a career, but not a global career, and then suddenly overnight with the show Nanette, becoming an international celebrity. How is that for a person with autism?
I think in a weird way, it's something I can handle because nobody should be able to be comfortable with celebrity. It's a completely alien way of life, and the people treat you differently in an alien way, and that's how you feel all the time with autism. So I had a life of that. I feel about as comfortable with celebrity as I do at home.
Et si elle a été diagnostiquée aussi tard, c'est aussi parce qu'elle n'était pas un garçon, parce que les filles sont généralement mal diagnostiquées, elles sont moins nombreuses à être autistes. Et elle explique aussi que ça fait du sens par rapport à son rapport au monde, son rapport aux autres. Par exemple, elle supporte pas quand quelqu'un du public l'interpelle pendant un show. Et en fait, il y a eu quelqu'un sur Twitter a posté un message que j'ai trouvé assez intéressant sur la réception contrastée des deux spectacles, en disant voilà, il y a un contraste dans la réception entre Nanette et Douglas qui me pose problème, puisque au moment où Nanette est sortie, beaucoup de femmes ont dit que c'était une représentation qui les avait transformées, mais là on n'entend absolument rien sur la question de l'autisme depuis que Douglas est sorti. Personne ne s'est manifesté sur cette question-là. En tout cas, elle trouve moins d'écho parmi le public. Voilà. Je pense que c'est intéressant à prendre en compte.
Ouais, tout à fait. Autre, pour le coup, point commun avec Nanette, c'est les références à l'histoire de l'art, hein, c'est sa formation à la base, et elle a un petit côté geek que je trouve assez chouette.
J'aimerais trop qu'elle fasse des visites dans des musées.
Ah, mais t'imagines, ce serait tellement ouf. Le point d'ancrage, c'est les peintures de la Renaissance. Elle pose vachement la question du female gaze, hein, dans ce spectacle-là. Mmh. Que seraient les femmes si elles avaient pu regarder et pas juste être regardées? C'est une longue histoire qu'on commence juste à raconter. Mmh. Donc, elle passe son petit temps avec un diaporama derrière, son petit côté TED Talk, à montrer le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un tableau avec une super belle perspective. Wow. D'ailleurs, mais de gars. Oh. Dans un temple, les gars donc, qui ont donné leur nom au concept. Donc, il y a Pythagore, il y a Platon, Socrate. Et donc, elle met en regard ce tableau des hommes qui ont des noms au concept aux représentations de femmes nues plaquées sur des rochers qui se câlinent.
Qui font tapisserie.
Qui font tapisserie ou qui sont peintes avec, et ça c'est tellement, tellement drôle, sont peintes avec la toche coincée dans les fesses. Bref. Elle s'imagine par ailleurs que les trois grâces n'étaient pas si innocentes que ça et sous-pesaient des attributs masculins et non pas des pommes. Ça c'est un peu drôle. Et surtout, ce qu'on adore, c'est qu'elle termine son spectacle avec une petite pichenette sur Louis C.K., donc comédien de stand-up accusé d'exhibition sexuelle. Je trouve que c'est absolument délicieux de terminer par ça.
Oui, la boucle est bouclée. C'est assez malin.
Toi, t'en as pensé quoi, alors, ton avis objectif?
Bah alors, moi, en tant que dog people, évidemment, voilà, je fais partie de la team Anna Gatsby. C'est vrai qu'elle présente ce nouveau spectacle, donc Douglas, comme une comédie romantique, ce que je trouve assez intéressant comme caractérisation. Je trouve que le spectacle est plus léger, évidemment, que le précédent. Et justement, donc, elle dit que ses détracteurs l'ont accusé de ne pas faire de comédie. Et finalement, elle va s'attacher dans ce spectacle à répondre répondre quand même à cette demande en montrant un peu toute la palette de tous ces tricks, quoi, de toutes ces pratiques. Et je trouve que c'est un peu de la métacomédie qui s'interroge constamment sur la manière dont cette forme évolue, quelles sont ses limites, comment la réinventer. Et je trouve que parfois ça ne fonctionne pas, d'autres fois si. Moi, c'est vrai que... évidemment, je me sens proche du discours de Hannah Gadsby, mais je remarque aussi que dans les milieux du stand-up, elle est souvent considérée comme effectivement quelqu'un qui ne fait pas vraiment de la comédie. Et ça me laisse assez songeuse. Et voilà, moi, parfois, je suis un peu perplexe devant ce qu'elle fait. J'arrive pas tellement à voir de quelle tradition elle se revendique, ce qui n'est pas grave. Mais j'ajouterais que c'est vraiment un coup assez stratégique pour Netflix, qui produit quand même tout et n'importe quoi, et qui, à mon avis, ne pariait pas tripette sur Nanette, et voilà, qui doit maintenant se frotter les mains. Mais en tout cas, je pense qu'eux ont été aussi surpris que nous par le succès de ce spectacle. Et d'ailleurs, tant mieux, ça prouve que des œuvres voilà, minorisées sur lesquelles on ne parie rien peuvent avoir du succès. Enfin, voilà, c'est un peu l'envers du décor de produire tout et n'importe quoi. Ça peut aussi avoir de bons résultats. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'avais adoré Nanette parce que je m'étais pris un gros uppercut dans la tête et puisque elle me prenait à revers. Moi, je m'étais préparée avec un saut de popcorn en me disant je vais me passer une super soirée à rigoler de ouf et je finis complètement en PLS. Je trouve que ce qui était super cool, c'est qu'elle nous forçait à nous questionner même intimement sur le principe de private joke communautaire, quelque chose que moi, je pratique beaucoup et que je trouve très salutaire dans la vie quotidienne parce que pour dire à tous les hétéros dans quel monde on vit dans un monde de private joke communautaire et très hétéro, de l'hétéro patriarcat blanc sexiste. Je pense aux blagues des blondes, aux blagues de Madame Monsieur ont un fils, etc., etc. Donc pour moi, l'humour communautaire, c'était important. Et là, elle nous force à questionner sur ce mécanisme qu'on a et je trouve ça chouette, vraiment. J'avais trouvé ça vraiment fort. Là, avec Douglas, j'avais des attentes en me disant que je serais un PLS aussi. Et pour le coup, j'ai encore été pris à revers. Après, je trouve quand même que Douglas est un petit peu décousu, mais je pense que c'est normal. Avec Nanette, elle avait un besoin, une nécessité de faire passer un message d'un coup, de mettre un coup de poing dans la gueule à tout le monde. Là, c'est un peu moins le cas. Je pense que ce spectacle, c'est un peu le passage de Nanette à autre chose. Quoi, je pense qu'on ne le sait pas. Je ne sais même pas si Hannah Gadsby le sait aussi. Mais je me réjouis de savoir ce que c'est. Je me dirais peut-être une série. Ce serait tellement bien. Je vois pas mal de points communs entre Nanette, Douglas et Work in Progress, une série extraordinaire dont on a déjà parlé sur les péripéties d'une femme grosse lesbienne neuroatypique. J'ai laid out 180 almonds. And every day, I'm gonna just gonna throw one away. And if there's one almond left, then I don't feel any better. I'm done. I'm out. Qui était vraiment très forte. Et qui a été renouvelée. Est-ce que Hannah Gadsby va faire une série? J'aimerais tellement, mais on verra bien. En tout cas, on se réjouit.
Ouais, c'est clair. On avait omis de parler de Nanette dans ce podcast et on s'en excuse, voilà. Mais on s'est rattrapé tardivement. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du nouveau spectacle Douglas. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode sur votre appli. Et Anne-Laure, c'est ton dernier épisode avant des grandes vacances bien méritées. On va se retrouver à la rentrée.
Oui.
Salut, merci. Ciao.
Avec grand plaisir, à la rentrée. Salut.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo.
Et Anne-Laure Pinault.
Mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage et coordination, Ashley Tola.